Depuis plus de 40 ans, Aligre FM, votre radio culturelle, vous propose des programmes diversifiés, sans aucune interruption publicitaire. Parce que cette radio est la vôtre, vous pouvez nous aider. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site aligrefm.org. Découvrez nos podcasts et laissez-vous guider pour faire un don en cliquant sur le lien en bas de page.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission la plus pop d'Aligre FM, celle qui aime la publicité et qui s'appelle La vie est un roman. Donc, nous sommes mardi matin, il est 11h du matin. Et ce matin, nous avons la chance de recevoir Paco Thielman qui vient de sortir un nouveau livre sur Internet, livre qui s'appelle Infernet. Et nous allons lui laisser la parole pour qu'il nous explique quelle nouvelle région il est allé explorer. À toi, Pacôme, de quoi s'agit-il ?
Bonjour Yves et merci pour ton invitation. Alors, c'est très simple. Hein, souvent, les endroits les plus exotiques sont ceux qui sont juste en dessous de ses yeux. Je suis allé explorer une région qu'on a tous en face de nous, qui est dans notre ordinateur. Il suffit de cliquer sur un petit bouton là et on arrive sur Internet. Et en fait, par rapport à Internet, c'est pas exactement Internet, Infernet. C'est dans Internet l'enfer. Et l'enfer, pour moi, c'est les réseaux sociaux. Alors, c'est un endroit où j'ai habité longtemps. J'étais 15 ans sur les réseaux sociaux, extrêmement actif. J'étais même ravi de la crèche. Pour moi, c'était la meilleure chose au monde. J'étais très heureux, etc., etc. Et puis, je ne me suis pas rendu compte pendant tout ce temps à quel point ça m'avait transformé. Et c'est quand ça a commencé à être mauvais pour ma gueule, quoi, ou quand je me suis commencé à me dire, en fait, je suis en train de mettre en danger là-dedans, que y a comme un chemin qui s'est fait dans ma tête, progressif, à me dire, mais réfléchis quand même un petit peu à ce que tu fais quand tu fais ça. Réfléchis à ce que tu fais quand tu postes quelque chose. Réfléchis à pourquoi tu postes quelque chose. Réfléchis à pourquoi tu te sens obligé ce matin d'aller là et de parler aux gens et de leur répondre. Et cette personne qui t'énerve, pourquoi est-ce que tu as lu le faire marquer? Et cette personne qui te fait une espèce de remarque élogieuse, très superficielle, pourquoi est-ce que tu mets un petit cœur en dessous? Et c'est des choses qu'on fait tous un peu automatiquement, mais qui n'existaient pas avant, quoi. C'est-à-dire que on vit sur les réseaux sociaux comme si c'était une biosphère ou je sais pas quoi, enfin un milieu naturel dans lequel on s'est installé, alors qu'ils n'existaient pas il y a 15 ans. Et j'ai pris le truc à l'envers, c'est-à-dire que je suis parti finalement de faits divers impliquant des gens sur les réseaux sociaux, que ce soit des youtubeurs, des influenceurs, des amoureux qui ne sont jamais rencontrés mais qui vivent par ce qu'on appelle aujourd'hui le parasocial sur Facebook, des Instagrammeurs, etc., etc. Et à partir d'histoires qui leur est arrivée, qui sont pour moi des histoires que j'ai appris en fait naturellement, parce qu'ils arrivaient sur ma page d'accueil, quoi, sur mon menu, que ce soit le menu des réseaux sociaux, parce que certains en parlaient, ou de YouTube, quand j'allais sur YouTube. Je me suis intéressé à leur histoire avant de penser à écrire sur eux, quoi. J'y allais par curiosité. Et puis, il y a eu le confinement. C'était pas il y a si longtemps, les enfants. Vous pouvez vous en souvenir. C'est pas la dernière guerre mondiale. C'était donc il y a quelques années seulement. Et là, bon, en fait, il se trouvait que, comme tout le monde, j'étais mis à l'arrêt. Je vis seul. Donc, le soir, quand je me faisais à manger, je lançais des podcasts sur des faits divers. Et donc j'ai écouté beaucoup ces histoires-là qui m'avaient déjà un peu intéressé. Je les écoutais beaucoup. Et en fait, à force de les écouter, d'abord, j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux parce que je me suis dit, il n'y a pas de possibilité de vie là-dedans. En fait, c'est miné, c'est un terrain de mort. Le peu qu'on récupère est juste, on récupère des trucs pour notre narcissisme, quoi. Mais en échange de ça, on perd du temps, de l'énergie, de la réflexion, du recul, etc. etc. Et deux, j'ai décidé de travailler sur ces histoires qui m'intéressaient tant pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles avaient de plus général. C'est-à-dire partir du particulier pour essayer de comprendre quelque chose de plus général à l'activité elle-même. C'est-à-dire dans quelle mesure, pour un exemple, il y a une figure de style de YouTube qui s'appelle le mukbang. C'est une activité qui est partie de Corée. C'est-à-dire, c'est des gens qui se filment en train de manger. En Corée, ça a une raison très compréhensible et tout à fait respectable. C'est que il y a une en Corée du Sud, il y a une épidémie de solitude, on peut dire, une pandémie de solitude. Donc les gens sont très seuls chez eux. Surtout les jeunes adultes, ils sont majoritairement célibataires. Il y a de moins en moins de familles, de moins en moins de couples, etc. Ils vivent seuls, ils travaillent beaucoup, ils rentrent tard, ils se font à manger. Et en fait, le fait de se faire à manger seul est tellement triste qu'ils regardent des vidéos de gens en train de se faire à manger et de manger. Et donc, en fait, ils communiquent avec ça. Bon, alors ça, on peut dire, c'est très symptomatique d'une époque, mais il y a quelque chose d'extrêmement émouvant pour moi. C'est ça. Mais le mukbang, quand ça a été découvert par les Américains, à travers des vidéos qui informaient de ce phénomène, ils ont décidé d'en faire un truc mais invraisemblable. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire des vidéos où on mange le plus possible et le plus vite possible. Et Loïc, mon intervieweur est arrivé. Tu te rends compte, mon intervieweur est arrivé. comment tu vas?
Mal. Et donc on parle de Coréens qui se filment
en train de manger
tout seul et qui regardent des gens.
Voilà.
C'est très très beau.
Je commençais là-dessus. Et
ça fait penser à de la peinture médiévale. C'est très beau.
Oui.
Cette perspective très profonde, là, tu vois,
oui.
de gens qui regardent des gens manger tout seuls, qui
oui.
regardent des gens manger tout seuls, qui regardent des gens manger tout seuls,
tout
qui
fait.
Regardent des gens manger tout seuls, c'est très très beau.
Alors ça, c'est très beau, mais quand c'est passé aux États-Unis, c'est devenu des concours de qui mangera le plus vite de bouffe dégueulasse.
Ouais, ça existait déjà dans nos campagnes, mais...
Oui, mais alors là, je crois que tu vois, il faut voir le...
Dans les colonies de vacances.
Oui, oui.
Dans les colonies de vacances.
Oui, oui. Mais alors, la forme industrielle que ça a prise. Donc, en fait, du coup, je me suis intéressé à un type qui s'appelle Nico Cado Avocado, qui était au départ un influenceur vegan et qui s'est transformé en un mukbanger, mais de fast-food, hein, de trash-food. Et il a pris, en gros, 100 kilos en 5 ans. Qui est un truc...
Et donc sa récompense, elle est sur Internet, les gens l'aiment,
il est devenu très riche.
Il le suit. Ah, voilà.
Il est devenu très très riche. Alors en fait, il est devenu incontinent, il ne peut plus se déplacer, il doit dormir avec un respirateur, mais par contre, il est devenu très très riche.
Ouais.
Et il insulte évidemment les gens qui veulent manger correctement, qui sont des cons, et les pauvres. Donc,
on a une espèce de rôle de bouffon, là, en quelque chose qui... Il y a de l'immémorial quand même. Je sens qu'il y a quelque chose qui est dans la nature humaine et qui à chaque époque trouve sa forme.
Ah, tu dirais ça.
Je dirais ça, moi. Je sais pas pourquoi ça me fait penser. C'est à cause de la nourriture. Peut-être ça me fait penser au Moyen-Âge, la nourriture. Mais
ouais. Mais je dirais que même. Enfin, je pense qu'il n'y a pas eu d'équivalent, en fait, de ce type d'auto-intoxication.
Ah oui, bien sûr, la forme est neuve.
Le bouffon ne pouvait pas devenir plus riche que le roi, quand même.
Exactement, ouais, c'est vrai. Ça mériterait d'être creusé. Je pense qu'il y a des bouffons qui ont pris le pouvoir. C'est des places comme ça de second. Tu sais, c'est Is No Good.
Is No Good.
Prendre la place du calife. Là,
ouais,
tu vois,
c'est un vizir, c'est pas un bouffon.
Non, mais moi, c'est intéressant.
Ouais.
C'est intéressant.
Alors, c'était des cas comme ceux-là. Donc voilà, là, j'ai raconté un peu la genèse du bouquin, ouais. Le temps que Loïc arrive.
Et donc, tu as 12 sujets.
Il y a 12 sujets. Il y a un sujet sur moi, là.
Voilà, c'est ça.
Alors, je suis le 13e. Je suis le 13e.
Celui qui était intoxiqué, qui s'est désintoxiqué.
Oui, mais enfin. Je suis quand même pareil qu'eux, hein, sur le fond. Pour moi, c'est mes frères, en fait. Alors, certains ont eu des destins beaucoup plus tragiques que d'autres, mais disons que... Alors, le dernier élément peut-être qui manque pour expliquer la genèse du livre, parce que je suis venu il n'y a pas si longtemps dans votre émission, donc c'est la première fois que je sors de livres aussi rapprochés, mais celui-là est, en fait, la plupart des textes, à part le dernier, ont eu une première publication sous forme de vidéo à travers le Media Blast, sous forme de texte et de vidéo. Et le Media Blast, qui est dirigé par Denis Robert et Soumaya Benaïssa, en fait, qui existe depuis 2 ans maintenant, quant à sa création, Denis comme Soumaya m'ont demandé de participer à ce média et j'avais pas d'idée, mais en parallèle, c'est comme ça que naissent les idées, j'avais cette obsession des faits divers numériques et je pensais au départ, en fait, nourrir mon blog avec ces histoires-là. Puis à un moment, la forme est arrivée telle, je me suis dit non, je vais leur proposer une chronique. Je voulais que ce soit une chronique écrite, mais ils ont dit non, mais ce serait bien qu'il y ait une chronique vidéo aussi. Et puis j'ai dit non, ce sera qu'écrite. Ils ont dit ok. Et puis après, il y a eu le directeur des programmes, Mathias Enthoven, qui a réinsisté, qui m'a dit eh ben, écoute, c'est simple, on fait un numéro zéro. Si tu trouves que ça n'a vraiment pas de sens de faire ça, on ne le publie pas, puis tu continues par texte. Mais si ce qu'on te propose te plaît, on le fait en vidéo. Et ce qu'ils ont fait m'a vraiment plu, beaucoup plu. Et donc, du coup, je l'ai fait en vidéo. Et donc, du coup, le paradoxe, la contradiction, ou le serpent qui se mord la queue, le poisson qui se mord la queue, c'est plus rare. Le serpent qui se mord la queue, c'est fréquent. L'ouroboros de l'affaire, c'est que donc, fondamentalement, ma diatribe anti-réseau social est publiée sur un réseau social qui est YouTube. Oui, parce que YouTube, c'est un réseau social.
Et donc c'est ça. Donc, c'est quand tu dis le Media Blast, veut dire que si je tape Blast sur Google, j'obtiens un site YouTube.
Alors, tu obtiens d'abord leur site Média, qui est un site de texte, qui est leur revue.
Comme on aurait fait une revue avant.
Absolument.
Imprimée, mais elle n'est pas imprimée, celle-là.
Elle est sur Internet. Oui. Et une partie des articles, pas tous, ont une forme vidéo qu'on peut voir sur YouTube.
Et dans cette forme vidéo, c'est toi qui parles ou il y a un reportage, il y a quelque chose?
Alors, ceux d'Internet, c'est moi qui parle. Les autres, c'est pas moi, c'est les gens, c'est les auteurs.
Mais il n'y a pas des images, des photos,
si,
du montage?
Si, il y a du montage.
Il y a du montage. C'est un petit film, en fait.
C'est un programme. C'est plus proche d'une émission de télévision.
Ah voilà, d'accord. C'est comme une télévision. Enfin, c'est comme une télévision.
C'est comme une télévision.
Une télévision avec du texte.
Voilà. C'est une
télévision. Petite télévision indépendante.
Voilà, c'est un peu... Et comme c'est une histoire racontée... Bon, on voit ma gueule, quoi, mais on voit beaucoup d'illustrations. On ne voit pas juste ma gueule, sinon ça n'a pas de sens. Et c'est un peu sous le forme Pierre Belmar ou Christophe Ondelat, quoi. C'est un type qui raconte.
Oui, bien
mais
sûr.
Sauf qu'il y a aussi des éléments, on va dire, d'interprétation que sans doute Belmar ou Ondelat n'auraient pas compris qu'est-ce qu'elle fout là-dedans. Donc, voilà.
Je ne me souviens plus du son que donnait Pierre Belmar, mais je pense que c'était très très produit et qu'il devait y avoir des effets de son.
Ah.
Et c'était très passionnant. Les histoires qu'il racontait,
c'était vraiment addictif. Ah oui, complètement.
Addictif à mort.
Complètement.
Et il devait y avoir du montage et ça devait être fait avec beaucoup de soin. Et il devait y avoir des espèces de musique concrète, là, tu sais, comme un peu électro-acoustique, des ambiances, des choses, des portes qui se ferment,
oui.
Du vent, de à toi.
Bon, maintenant, on va parler de.
Vas-y, parle d'Infernet, vas-y.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bon, en fait, c'est marrant parce que moi, je me suis fixé aussi sur Avocado, là.
Oui.
Bah alors, j'adore son nom.
Oui, 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 bah c'est un pseudo.
Et je l'adore.
Mais il est bien.
Oui. Enfin, moi qui ai inventé YouTube, tu le sais, c'est moi qui ai inventé le concept de YouTube.
Oui, je te félicite d'ailleurs.
Oui, oui, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et donc, je me suis dit, ce mec-là, il est costaud, quoi. Et donc, je vous explique.
Merci.
Qu'est-ce qu'un mukbanger? Donc en fait, tu fais toujours découvrir des noms comme ça. Tu vois, t'es bien renseigné, quoi.
Ah bah j'ai un peu travaillé quand même à chaque fois. On
n'a
pas l'impression comme ça, mais j'ai un peu bossé.
Alors, tu fais un focus sur Nicodo Avocado, ça.
Nicocado.
Nicocado
Avocado.
Avocado, il a trouvé son nom, lui, il est trop bon, quoi.
Ouais.
Et j'ai regardé, c'est un bouffon vraiment pathétique, mais très très talentueux, quoi. Il est excellent, je trouve. Moi, en tant que bouffon, j'ai une petite carrière de bouffon ça. Et vraiment, je peux te dire qu'il est vraiment excellent, improvisateur et tout ça. Il remplit le vide de l'image vidéo avec son corps obèse et sa logorée insipide, quoi. Il est vraiment désespéré. Et c'est beau comment il est désespéré. Il dit, j'ai pris du poids et je comprends pas pourquoi.
Oui, c'est
comment que tu trouves, il a l'air d'y croire en plus quand il s'agit.
C'est
il
très ambigu.
Avec émotion.
C'est hyper ambigu. Bah, justement, moi je prends là-dessus, je décide pas s'il sait ou s'il sait pas. C'est-à-dire que il fait, j'ai pris du poids et je comprends pas pourquoi. Quand il commence à faire ça, on se dit, il plaisante, et puis comme il le fait si souvent, et qu'à aucun moment il dit qu'il plaisante, et puis c'est sur plusieurs années, tu te poses vraiment la question. Comme quand il s'énerve sur le spectateur et qu'il dit c'est ta faute, c'est votre faute, bande de salopes, quoi, c'est votre faute. J'arrive pas à savoir si c'est un jeu, comme on pourrait avoir un jeu dans une foire, quoi, où on insulte le public pour qu'il s'excite, etc. Ou s'il est vraiment en colère. Et c'est ambigu.
Il est vraiment en colère.
Il est vraiment en colère. En fait, bon.
Moi, mon interprétation de ça, parce que je me suis posé cette question-là plein de fois sur des gens comme lui, en fait. Hein,
oui.
Il y en a beaucoup. C'est parce qu'on vit sur deux plans. Et c'est à fréquence. On passe d'un plan sérieux à un plan récriminant, un plan objectif où on est bien avec les autres, on voit la situation de loin, et un plan où on est victime. Et ça, c'est à fréquence assez haute. Donc il fait ça, il passe d'une fréquence à l'autre sans arrêt.
Ouais, parce que je pense que on peut pas être un influenceur ou un youtubeur ou un truc comme ça sans développer une double personnalité. Et donc, ou ce que tu appelles la double fréquence, c'est-à-dire être deux personnes en une. Être la
Tu
allumes la caméra et tu es vu par les gens, tu es une personne. Tu l'arrêtes, et surtout s'il ne l'arrête pas très souvent. Enfin,
parce qu'il fait ça en temps réel.
Et puis il se filme deux fois par jour.
Oui.
Il fait deux vidéos par jour.
Oui.
Donc c'est beaucoup. Hein. Surtout quand on est diminué physiquement comme lui, diminué, c'est. On s'entend.
Augmenté.
Enfin, disons, augmenté, mais de telle sorte que tout devient beaucoup plus difficile. Qu'on se déplace sur une petite voiture, etc. Donc
Mais toi, tu le vois d'une manière un peu trop négative, je trouve, parce qu'il est. Il a une technique, quoi. Il est brillant dans sa facture, quoi. Comment il fabrique ce truc, comment il est super bon, quoi, techniquement. Je veux dire, pour fabriquer ces trucs-là, rythmer, le tournage, tout ça, c'est vraiment, pour moi, Je continue, alors.
Hein. Oui, je t'en prie.
Il remplit le vide.
T'as le droit d'être pas d'accord avec moi.
Hein. Oui, bien sûr. Mais je suis là pour ça en plus.
En plus, c'est là pour ça.
Vas-y, raconte-nous ce que t'as fait.
On dirait des vidéos faites pour les aveugles, presque, tu vois. Il improvise comme un jazzman dans le vide intersidéral de la société marchande. C'est du pop art trash, en fait. Parce qu'il est toujours sur les objets, l'Amérique, la richesse.
Les hamburgers et le fric.
Comme Andy Warhol, c'est quand même Warhol qui a commencé à bouffer le premier hamburger.
Andy Warhol a un côté aussi influenceur avant l'heure, de toute façon.
On a des artistes qui se sont fait tirer dessus.
Bien sûr.
Donc la référence au pop art est pertinente.
Tout à fait.
Il serait allé à la Factory, lui. Je pense que Warhol l'aurait embauché à la Factory, quoi, tu vois.
Il aurait fallu un gros budget bouffe en même temps.
Oui, mais bon,
il ramène de l'argent
burger,
aussi.
Mais il lui redonnait de la poudre, ça lui aurait coupé de l'appétit.
Voilà.
Et ça aurait été un autre récit.
Et en fait, Donc, et toi, tu le poses dans n'importe quel endroit de la planète, il t'improvise une vidéo, n'importe où, dans les toilettes, sur la Lune, partout. Une vidéo vide comme un BHV après la fermeture. C'est superbe. Tu fais un focus sur sa vidéo « My new house hour ».
Oui, oui.
Donc là, c'est là où il présente son appart et, oui, 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 et tout ça. Et donc, on a même du mal à croire que c'est son appart, quoi. Il est tellement vide, l'appart,
oui, oui, oui,
qu'il dit qu'il vient de l'avoir, mais on a l'impression que c'est un appart qu'on lui a prêté pour tourner ce truc-là, pour voilà.
Mais bon, toi, tu penserais ça?
J'ai pensé ça la première fois.
Ouais, il y a des éléments qui... Ouais,
oui, oui, oui.
En entendant, ça a l'air quand même d'être le sien.
C'est pas complètement
oui,
sûr.
Oui, oui.
Et donc, tu fais un focus sur cette vidéo, et là où il nous fait visiter, comme un nouveau riche te ferait visiter oui, son oui, appart, quoi, avec beaucoup de vulgarité. Et là, et le final sur le balcon est grandiose, quoi. Ouais. C'est shakespearien, quoi. Il est sur son balcon, il voit la nuit, les lumières de Las Vegas, et il fait « Mon rideau électrique, tout neuf est HS, je vais appeler l'entretien. Je suis tellement excité, sincèrement. Ah là là, pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas ?» Parce que rien ne marche tellement il est énervé. Enfin, il regarde les lumières de Las Vegas depuis son balcon et il fait « Oh, bande de moutons rampants, éteignez ces lumières, sauvez mon électricité. Je suis riche devant la ville entière. Mais je pense toujours à l'environnement. » Il sort sur la terrasse, en plus, il a l'air libre et il regarde encore plus la ville, il fait « Oh mon Dieu, wow, des pauvres partout dans le monde. Ils luttent pour survivre. Les pauvres, oh mon Dieu. » Puis il change de ton. « Je suis un homme de bien, un influenceur. J'ai un jet privé, je viens de lancer une marque de cosmétiques et les gens se permettent de critiquer mon maquillage. Je dis non. » Et là, il ouvre la baie vitrée et il fait « I am rich. Et il y a la ville derrière. C'est comme dans n'importe quel film sur les Rastignac américains.
Oui, 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 oui.
C'est The Rise. On attend la fall là, après, mais on n'a pas encore.
En fait, il n'y a pas de fall. Puisque
pas encore.
Là,
pas
non,
encore.
Mais c'est contigu.
Oui.
C'est, tu montes et descends en même temps.
Ouais, mais il va peut-être prendre une crise cardiaque quand même. Écrit à la ville, I am rich, bande de paysans. C'est superbe. C'est un peu Gatsby, le magnifique version McDo, quoi. T'as pas l'air de l'aimer, toi, ce Nico Cadeau.
C'est pas vrai. Je m'identifie à lui.
D'accord.
Mais pas sur ce que j'ai de meilleur en moi.
Ah, d'accord.
C'est pas que je l'aime pas.
Vas-y.
C'est que j'ai l'impression de comprendre le type d'addiction qu'il a.
C'est la célébrité.
Oui, et puis alors le rapport entre la célébrité et la bouffe, je comprends aussi parce que moi j'ai tendance à être un peu boulimique. Donc,
ouais.
Si tu veux, la question s'empiffrer, c'est un sujet auquel je suis sensible, quoi. Quand bien même on peut considérer ça comme une œuvre d'art, moi je trouve que c'est, un terrible gâchis d'un individu, quoi. C'est le plus grand gâchis d'un individu.
Non, c'est un sacrifice.
Sacrifice, pourquoi? Pour toi, c'est un sacrifice.
Quand tu dis un sacrifice, gâchis, donc
un sacrifice au dieu du capitalisme et du numérique, alors.
Oui, c'est un suicide. Si
c'est
tu
un
veux.
Suicide.
Oui, oui.
Mais il n'est pas seul. Alors, c'est le plus incroyable.
Ouais.
Mais les mukbangers, il y en a plein.
Ouais.
C'est-à-dire que lui, c'est le plus exceptionnel
ouais.
par tout ce qu'il traverse à la fois.
Bon,
mais...
ça s'est passé, on a passé très vite,
il te reste deux minutes
si tu veux évoquer.
Donc, j'ai bien compris, en fait, tu as repéré chez l'individu de manière anthropologique, tous les individus, un désir profond d'attirer l'attention à soi. C'est quoi ce truc-là? J'ai lu ça nulle part, moi, d'attirer, moi, à part ça, je l'ai chez moi, ce truc-là. Mais ça, c'est un truc, il y a un titre psychiatrique pour ça.
Ben non, mais pourtant, c'est vraiment...
Et c'est toi qui viens de le découvrir.
Non, je viens pas le découvrir. Je crois que ouais. tout le monde le connaît, ce truc-là. Mais par contre, oui, peut-être que ça manque. Je ne sais pas. Mais tout fonctionne là-dessus, sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est quand même la lutte pour
oui,
l'attention.
Oui, mais c'est du narcissisme.
C'est du narcissisme. Voilà. Mais c'est un narcissisme. Le narcissisme peut prendre plein de formes.
Ouais.
Il peut prendre des formes complètement sublimées. Il peut prendre des formes qui sont même très généreuses.
Ouais.
Ouais, on peut dire que espèce de bienfaiteur de l'humanité, c'est un narcissique. Mais alors, si ça nourrit une population entière, on est content.
Lui, je le trouve très généreux quand même, parce qu'il paye de sa personne, quoi.
Généreux, oui, mais
il paye de sa personne.
Tout dépend de ce qu'on entend par généreux.
Et en fait,
tu serais prêt à regarder toutes ces vidéos?
Oui, mais pas pour comme ça, quoi, en passant. Pour
tu
me
serais
dire,
prêt à regarder
voilà,
les 800 non, mais... vidéos qu'il a postées? Bah, tu vois.
Mais non, mais ouais, c'est pas obligé. Et après, tu cites quand même, tu montes très haut, tu cites Walter Benjamin.
Oui.
L'humanité s'est suffisamment aliénée à elle-même pour être capable de vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de tout premier ordre.
Ouais.
Donc, tu décèles dans l'obésité, tu décèles l'apocalypse.
En tout cas, dans le besoin d'attention ouais. absolue, l'obésité n'est que la forme que ça prend. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est pas. On pense à Marilyn Monroe.
Bien sûr.
On sait pas spécialement l'obésité.
Non.
Écoute, Pacôme, ça va bientôt être fini. Là. Dans une oui. minute, c'est fini.
Nous pouvons aimer énormément, regarder ce que nous n'aimons pas parce que nous ne l'aimons pas. Ça, c'est encore un truc tordu, ça, Pacôme.
Ça, c'est ma manière de réfléchir.
D'accord, très bien. Tu te contredis à chaque fois. C'est comme ça qu'on avance.
Je contredis à chaque fois.
Mais c'est ça, c'est que
non, tu
agis par opposition.
Oui, voilà, tout à fait.
C'est ça que je veux dire.
Oui.
Tu, bah, voilà. Et il paraît que t'as arrêté Facebook. Pourquoi ?
Ça fait 4 ans.
C'est vrai ? Ah ben pourtant, j'ai l'impression que...
T'as pas remarqué.
Non, j'ai pas remarqué. Bah, mais je vais pas sur Facebook.
Voilà. Toi, tu peux pas arrêter si t'as pas commencé.
Non.
Donc moi, j'ai remarqué. Écoute, merci Pacôme.
Oui, bah, vraiment,
et bonne soirée. Bonne soirée à Strasbourg. Ce soir, embrasse les Strasbourgeois de la librairie Kléber de ma part.
Ah bah oui, bien sûr.
Pacôme est à la librairie Kléber ce soir, mais je crois pas que vous nous écoutez depuis Strasbourg en direct. Oui. C'est pas possible. Malheureusement.
Mais si vous prenez le train de Paris à Strasbourg aujourd'hui, vous pouvez me retrouver
non,
à 17h.
Ils pourront te voir à Paris un de ces jours, on leur dira.
Okay. Ouais.
Merci à toi, Pacôme.
Merci Yves, merci
et
Loïc.
On va écouter maintenant l'autre petite intervention de Loïc sur Monsieur Denuit. Est-ce qu'on peut entendre ça ?
Tout cassera, se brisera, ça tombera dans un grand bruit. Vu les passages qui sont faits dans la foule, entendu le battage, ils s'imaginent grands. Sont-ils si puissants ? On est tous habillés pareil, on descend la rue. C'est quelque chose, les gens sortent sur le pas des portes, on les a sortis de leur coquille, et même s'ils sont très frileux, qu'il faudrait toujours les placer près du feu. Là, ils s'intéressent un peu. Il faut que ce soit comme on vient, ça passe. On laisse passer un peu de lumière. Entrez ! La dernière fois, je me suis dit, il faut que je trouve une bonne idée. Mettez-vous en place, musiciens, cœur dans les poitrines, battez la mesure. Passer par-dessus tous les genres de peur. C'est ce que je tente d'expliquer. Le miracle d'instant en instant, une démarche de courage, l'exigence d'une vie. Est-ce un groupe, un individu, une existence ? Est-ce agréable ? Demande quelqu'un, quelqu'une. Voilà, c'était Introduction de Propos en liberté, un livre d'Alexis Denuit qui prend tout son sens en ce printemps 2023. Référence de l'ouvrage sur le site d'Aligre FM.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Oui, donc, je peux parler ?
Oui, bien sûr.
Oui, donc là, j'ai un peu choisi cet extrait d'Alexis Denuit. C'est un livre ancien de lui qui doit avoir 2 ans. Et en fait, j'aime beaucoup cet écrivain, ce jeune écrivain qui est aussi artiste peintre. Et parce qu'il a un sens un peu de la révolte qui est assez sain, intelligent et poétique. Voilà. Donc Yves, tu peux continuer.
On vous mettra les références du livre sur la page podcast. Et merci, donc Pacôme est parti prendre son train et nous allons écouter un petit morceau de musique avant la deuxième partie de l'émission.
If you like it a cappella, soul clap will be sweet. Almost complete, feel an impact when it hit the street. But it sound thicker when I kick it with a beat. See, I can let it speak for itself. But every now and then it need a little help, guess who?
to the rescue. Ripping up car by stepping, then stomp, explore, scam, scam the land like Mr. Timberland. Prepare the stage for rock him to stand. Then I pick a song, grab the mic, click it on. Time to get it on, kick along. See if you can move to the words I speak. Pick up on the rhythm. My intellect gets warm. Feed it to your physical form. You can't keep calm. Get fit to the skit. Try to hop on, get hip to the trick. As I flip the script, you feel a rust like a thrust of an arrow. Bust, looking through the eye of a barrel. Bust, emergency, take him to the operating room. Put him on the floor, let his heart feel a boom. React to the rap of a brand new song. Then kick along. Kick along. Kick along. Kick along. Kick along. Kick along. A kick is a hip with hop. A pep with step like the floor is hot. I project a lot so you can use every kick you got. But don't forget, don't kick when I stop. Something like Simon says, as I'm pumping hype rhymes in your heads. The mic's a remote control and I'm pointing it at you. When I push buttons, you're gonna have to break straight to the floor. Cause I'ma make more. Each one's composing the shows and each one flows. How long? Nobody knows. And whoever try to take them, I'ma break them. Drag it out of them, dehydrate them. The beat makes the beat of your heart accelerate. Your pulse is a drum roll, too late to wait. A pen, a send, adrenaline, a ten, and then begin to blend the smooth descent. Fast to prevent you from getting asthma. But try to keep up because the cut has your blood pressure to the point. Never stops to drop, putting strain in the veins and the brain. Your blood clock, too quick to pause it. You almost lost it. So kick along till you're all exhausted. And look what my day made, my power never fade. I keep it energetic, I hype the skate away. Now kick it with the beat. Come on. Kick along. Kick along. Kick along. Kick along. They can't wait to kick steps to this. So I make a skit just for kicks. Syncopated, pause and go. Innovated, cause the flow. Melodic and melodramatic styles are cut like a choreographer. My mind's a photographer. Making music visible. The individual that gets visual. What I manifest, you express in the dance form. Pants get torn when the jam is on. As I kick rhymes until the rhymes kick back. It's hard to kick that, where did you get that? Here's the concept, part of your concert. Expect the expert to perfect and do work. Don't stop the song till I'm gone. Keep getting it on, kick it off, put the horn, kick along. Kick along. Kick along.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc maintenant, nous allons entendre un interview réalisé par Zoom avec un auteur qui est à Londres, qui s'appelle, qui signe Z, qui est un ancien des services secrets français et qui a fait un livre magnifique, Phoenix, très addictif, sur les tentatives d'assassinat du président ukrainien au début de l'intervention russe en Ukraine. Donc vous allez entendre l'interview fait par Zoom.
Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1, dans la vie est un roman. Et ce matin, nous sommes dans un échange Zoom avec un écrivain qui est à Londres et nous sommes à Paris. Et donc l'écrivain use d'un pseudonyme qui est Phoenix et il a écrit un livre qui se nomme Z. Un livre au tempo très serré et plein de rebondissements, un livre très addictif. Une fois qu'on a commencé à le lire, on ne peut pas s'arrêter avant d'avoir terminé. Donc on y passe la moitié de la nuit. Et un livre qui raconte quelque chose qui est en face avec l'actualité et sur lequel on a tous été quand même. C'est quelque chose qui nous a tous marqué et qui est... redonne une poussée d'adrénaline absolument impeccable, vraiment, et puis qui a rendu réaliste et à la fois la façon d'écrire, le style qui est extrêmement vif, et puis la matière première, évidemment, comment dire, elle nous appelle beaucoup, elle titille beaucoup, elle nous impressionne beaucoup, elle a changé nos vies, elle a énormément d'importance pour nous. Depuis le mois de février et la décision qu'a pris Poutine d'envahir l'Ukraine. Mais à vous donc, Monsieur Phoenix, racontez-nous tout.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup de m'accueillir, Yves. Bah, déjà, je suis ravi que ça vous ait plu. Donc, oui, bah, je crois que vous l'avez bien résumé. Z, c'est un roman qui se passe à peu près sur une semaine et qui, il y a une petite attente. Ça commence, on va dire, un mois avant le 24 février. Et ensuite, on a vraiment des événements quasiment en temps réel du 24 février au 2 à 3 mars. Et ça raconte l'invasion, enfin l'opération militaire spéciale lancée par la Russie, par Vladimir Poutine, et les premiers jours où, en fait, l'idée du Kremlin, c'était de façon à s'assurer une victoire extrêmement rapide de mettre fin au jour de Zelensky et voire même de décapiter son gouvernement. Alors après, les sources, elles varient énormément. Selon qu'on parle à des Européens, des Américains ou qu'on parle aux Ukrainiens, mais il y a énormément d'informations qui nous est arrivée et qui en fait parle de cette tentative. Alors on a deux sources et deux équipes qui sont en fait lancées sur le président ukrainien. La première, c'est les Tchétchènes, le 41e régiment d'infanterie motorisée. Et la deuxième, c'est des mercenaires du groupe Wagner, qui en fait étaient structurés d'une façon complètement différente à l'époque. Il y a eu un gros changement, je ne sais pas si on en parlera, un gros changement chez Wagner vers septembre 2022, et qui sont en fait infiltrés au sein de la capitale de façon à eux aussi essayer de commettre cet assassinat.
Et donc, vous êtes annoncé sur la carte de couverture comme un ancien des services secrets. Donc, vous avez une maîtrise. Parce qu'il y a un personnage d'origine polonaise qui travaille pour les Américains qui va avoir une importance très grande, qui va arriver à lire les images de satellites pour les différentes dispositions, etc. On est à l'intérieur d'un travail qui est entre les services secrets.
Tout à fait. Alors... Oui, en fait, le roman parle et évoque énormément de personnages réels. Hein. Donc, on voit Zelensky, on voit Poutine, on voit Bortnikov, on voit Yevgeny Prigojine, donc le patron de Wagner, etc. J'ai essayé de les reproduire et de façon la plus fidèle possible, sans jugement. Et comme vous venez de le dire, il y a aussi tout un ensemble de personnages fictionnels, parce que ça reste un roman. C'est pas du tout un récit. Ça ne se veut pas un récit, ça se veut un roman qui est complètement ancré dans la réalité. Je pense que c'est assez caractéristique de notre époque de mêler le fictionnel et le réel, parce que le réel est finalement extraordinaire et en fait change sans arrêt. Enfin, on vit dans un monde complètement imprévisible. Je sais que c'est des banalités, mais
donc l'échec de tout ça, c'est les divisions qu'il y a entre eux. Je parle entre les forces de Poutine. C'est ils ont des rapports très haineux, ils se haïssent pour des raisons d'un passé relativement récent. Et donc, ils vont s'autodétruire les uns les autres.
Tout à fait. C'est d'une complexité sans fin. Et je dirais que je l'ai presque simplifié dans le roman. Sinon, il aurait fallu en écrire beaucoup, beaucoup de pages. Et puis, ça aurait pu commencer à être un petit peu ennuyeux. Oui, il y a des rivalités, comme vous venez de le dire, qui sont vraiment étonnantes, quoi. Donc, déjà, le FSB, donc, qui est le renseignement intérieur russe, mais qui est le renseignement intérieur russe, qui est une masse absolument incroyable. C'est des dizaines de milliers d'agents, hein, qui sont répartis dans des départements, des divisions complètement différentes, avec des agents de renseignement, des agents spéciaux, des groupes alpha qui sont en fait chargés de faire des actions militaires en fait. Et en fait, il y a des rivalités incroyables au sein. Ensuite, ça c'est le premier niveau. Ensuite, donc il y a un clanisme incroyable au FSB. Ensuite, vous avez les autres services secrets russes, donc le SVR qui est censé s'occuper du renseignement extérieur. Mais le SVR s'occupe du renseignement extérieur en fait en dehors des anciennes républiques soviétiques, puisque le FSB a la charge du renseignement et des actions sur les territoires, donc les 14 autres républiques, la Biélorussie, l'Ukraine et même les pays baltes, etc. Donc vous voyez, ça dit énormément sur la vision en fait impériale et nostalgique de la Russie. Donc ça, c'est votre deuxième niveau. Votre troisième niveau, c'est que vous avez, il ne faut pas oublier que l'Ukraine, c'était évidemment de loin la plus importante république de l'ancienne Union soviétique, et que l'histoire de l'Ukraine est assez complexe après 91 et 92, et on va dire que le détachement brutal et vis-à-vis de la Russie commence il y a pas mal de temps, mais surtout après 2014 et la révolution de Maïdan. Mais malgré ça, vous avez un nombre d'agents russes au sein des services secrets ukrainiens, donc le SBU, qui est étonnant, mais ce qui est très intéressant et que j'essaye de reproduire dans le roman ou d'expliquer dans le roman, c'est que vous avez aussi énormément d'agents russes qui sont en fait des agents doubles et qui travaillent pour les Ukrainiens. Donc pour terminer sur cette explication, un bon exemple qui est expliqué dans le livre, c'est que le groupe d'assassins tchétchènes, donc qui en fait appartient à ce qu'on appelle la garde nationale tchétchène, qui dépend directement de Kadyrov, et Kadyrov, lui, reporte au chef de la garde nationale, qui est une sorte de, encore une fois, pour simplifier, une sorte de garde prétorienne créée par Poutine au milieu des années 2010, en partie comme contre-pouvoir par rapport à l'armée, puisque, pour diriger, il faut d'abord survivre. Et donc les Tchétchènes sont lancés le 26 au matin sur la route qui conduit de l'aéroport d'Ostomel au quartier périphérique ouest de Kiev. Et donc, que je mets dans le roman, qui encore une fois est basé sur une réalité d'après les sources en tout cas que j'ai, c'est que c'est le FSB qui passe l'information au SBU. Et ensuite, le groupe alpha du SBU, qui est en fait l'équivalent, encore une fois, pour simplifier, du service action des services secrets, enfin du renseignement intérieur ukrainien, s'occupe de faire la fête aux Tchétchènes. Donc, c'est d'ailleurs pas la fête pour eux. Et ça, c'est le 26 au matin.
Et incontestablement, ces divisions ont perduré. Donc, par exemple, on a toute cette histoire avec Wagner qui se plaint tout le temps de ne pas recevoir des munitions. Le rapport entre Wagner et l'armée officielle est resté extrêmement divisé. On est dans une espèce de démonstration shakespearienne, comme ça, de passion et de division jusqu'au bout. Et disons que le niveau de crédibilité de notre roman est quand même élevé sur le côté tous contre tous pour échouer. Enfin, et puis après, il y a l'échec en soi. Donc, effectivement, il y a la vérification historique sur le fait que ces tentatives d'assassinat ont échoué et que pourtant ça devait être assez simple et ça avait été bien pensé, vu que tout l'appareil officiel ukrainien a été très infiltré d'agents doubles, etc.
Tout à fait. Alors depuis le début de la guerre, évidemment, les Russes ont perdu énormément leurs espions au sein du SBU. Les Ukrainiens ont fait un ménage absolument incroyable. Ensuite, sur Wagner, oui, vous avez tout à fait raison. Alors, l'histoire de Wagner, c'est vraiment très compliqué. Hein. Donc, ça commence dans le Donbass à peu près vers 2014. Au début, c'est pas du tout un groupe de mercenaires officialisés. Enfin, ça commence avec une opportunité qui est en gros le nom Wagner, ça vient de Dimitri Utkin, qui est un ancien lieutenant colonel du GRU. Et qui, en gros, organise une bande de mercenaires pour se battre contre les Ukrainiens en 2014 au niveau du Donbass. C'est là, d'ailleurs, où l'armée ukrainienne réalise son manque de combativité, pas du tout par manque d'envie, mais en matière d'entraînement, d'équipement, etc. Et ce qui est vrai, ce que dit Moscou, là, qui est tout à fait vrai, c'est que depuis 2014, l'investissement de l'OTAN et surtout des Américains pour essayer de transformer l'armée ukrainienne, qui était en fait une sorte de sous-armée de type soviétique, bien inférieure en nombre et en équipement aux Russes, qui, pendant ce temps-là, depuis l'ère Poutine, depuis plus de 20 ans, passe son temps à investir énormément d'argent, des revenus pétroliers, dans la reconstruction de son armée, les Américains ont fait un travail absolument incroyable. Et donc voilà. Et ensuite, donc il y a quelque chose qui se passe avec Wagner en septembre, où les Prigogine, vous en avez sûrement entendu parler, et ça c'est quelque chose qui se passe bien après. Mais je réponds à votre question. Prigogine en fait va dans les prisons, les colonies pénitentiaires, et commence à recruter énormément de prisonniers de droit commun, et de façon, pour leur donner un échange, vous allez vous battre, et en échange, si au bout de 6 mois vous êtes bien battu, vous êtes toujours vivant, et bien vous aurez la liberté. Donc ça, c'est absolument pas le Wagner d'avant l'invasion du 24 février 2022.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Ensuite, sur tous contre tous, ouais, vous avez plein de camps en ce moment au Kremlin. En fait, parce qu'est-ce qui s'est passé? C'est très intéressant parce que, rappelons-nous, en février, en Europe, en gros, on se dit, bah, l'armée russe, il n'y a pas qu'en Europe, hein, les Américains aussi, s'attendent à une chute immédiate de l'Ukraine. Maintenant, il y a une complaisance qui s'est installée dans les médias, parmi les politiques, ce qui est évidemment très grave, qui est cette idée que finalement, on s'était complètement trompé et l'armée russe, finalement, ne vaut pas grand-chose. La vérité, elle est dans aucun de ces deux extrêmes.
Votre livre est bien là-dessus, oui. Votre livre est bien là-dessus.
Oui, tout à fait. Et parce que, en fait, d'abord, la guerre a lieu uniquement parce que Poutine est convaincu, et tous les gens autour de lui l'ont convaincu, qu'elle peut être emportée en 3 jours. Hein, c'est à peu près le but, 72 heures à une semaine. Donc, ça, sinon, il n'y aura pas eu de guerre. Hein, il n'est pas fou. Et numéro 2, ça a vraiment, vraiment failli se passer exactement comme ça. Et ça qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que c'est un jet de dés, c'est un domino, il y a eu tout un concours de circonstances qui ont fait que les Russes n'ont pas réussi à l'emporter. Et le centre de tout ça, ça reste Zelensky. Zelensky, très tôt, il a vraiment représenté l'esprit de résistance ukrainien. Il y a eu 2-3 moments clés pendant les premières 48 heures. Donc maintenant, comme on est tellement abreuvé de ces informations depuis 15 mois, on l'oublie presque. Mais les vrais moments clés, il y en a eu, je dirais, ça c'est mon opinion, il y en a eu 3. D'abord, il y a eu la tentative d'attaque le 24 au soir sur le 11 de la rue Bankova, qui est le siège de l'office de la présidence, puisque Zelensky ne travaille pas dans le palais présidentiel, qui est plus cérémoniel. Donc, parmi mes sources, j'ai eu des témoins oculaires qui m'en ont parlé, etc. Donc voilà, vous avez les hélicoptères des forces spéciales russes qui sont au-dessus, et il y a eu des batailles rangées que j'ai essayé de reproduire. Il y a eu un deuxième moment qui est absolument essentiel, parce qu'on est quand même évidemment, par rapport à il y a 100 ans ou 5 ans, dans une ère de la communication, où être capable de communiquer, c'est absolument essentiel pour mobiliser une population. Et c'est le moment où Zelensky sort avec ses 4 hommes clés, donc son premier ministre, le président du groupe parlementaire, son conseiller principal, Mikhailo Podolyak, et aussi son chef de cabinet, voilà. Et il a cette idée d'enregistrer une vidéo en plein milieu de la rue Bankova, de nuit. Les 5 hommes sont là, il n'y a que lui qui parle. Et il explique au peuple ukrainien, vous savez quoi?
C'est là qu'il rentre dans l'histoire, on est d'accord avec un grand H.
Exactement. Et tout à fait. Et si vous parlez à des gens qui vivent en Ukraine en ce moment, tous vous diront que c'est le moment de basculement. C'est vraiment, il y a un moment de basculement. Et en fait, ce moment de basculement, c'est le moment où la population se dit, on n'a pas perdu, donc on va tous s'y mettre. Et il y a eu, d'ailleurs, dans cette guerre, il y a une participation civile qui est absolument incroyable. Hein. Les Ukrainiens sont assez avancés en termes de numérisation des services de l'État.
On trouve une espèce de guérilla, là, oui, qu'on avait complètement... On trouve un peuple, en fait. Ils inventent un peuple.
Exactement. Alors, le peuple a déjà commencé à être construit. Il ne faut pas oublier...
Oui, c'est Maïdan, on est d'accord, mais... Et le troisième point, alors il y avait 3 points, c'est quoi?
Ah, pardon, le troisième point, c'est La bataille d'Ostomel. Les Russes sont très traditionnels en termes de stratégie militaire. Et par certains côtés, leur invasion de l'Ukraine fait un peu penser au début de l'Afghanistan, qui d'ailleurs s'est pas bien passé. Et donc ils prennent le contrôle d'un aéroport qui est pas loin de la capitale. Le but, c'est de décapiter le régime. Alors dans le cas de l'Afghanistan, ils l'ont fait tout de suite, même avant le début de la guerre. Là donc ils prennent le contrôle de l'aéroport, c'est Ostomel, qui était l'un des deux trois aéroports. C'est pas un aéroport civil, c'est un aéroport cargo. Ensuite, ils essaient de faire atterrir tout un ensemble d'avions qui transportent des troupes aéroportées, les VDV, plus les Tchétchènes, etc. Et une fois qu'ils avaient le contrôle, l'idée, c'était en à peu près 1, 2, 3 jours d'avoir suffisamment d'hommes qui arrivent pour, en gros, décapiter tout le régime à Kiev et prendre le contrôle de Kiev. Toute la stratégie, attaque vers le sud, vers l'est et vers le nord, il y avait un but, c'était prendre Kiev de façon à mettre un président à la place de Zelensky, qui d'ailleurs, il ne faut pas oublier, Zelensky était très impopulaire avant le début de la guerre. Il a été élu avec une grande majorité, donc en 2019, mais il est super impopulaire. Il a un taux de...
Oui, puis c'est un personnage de bouffon, en fait. Donc c'est un... Il y a quelque chose de punk, quoi. Il y a quelque chose de... d'une espèce de plaisanterie désespérée dans son élection, puisque c'est effectivement quelqu'un qui joue un président à la télévision. On est dans Berlusconi, mais enfin Berlusconi a resté très longtemps au pouvoir, justement. C'est du spectacle.
Oui, je vous suis. Il n'a pas grand-chose à voir avec Berlusconi, toutefois, parce qu'il est serviteur du peuple, parce que bon, c'est une superstar en Ukraine et en Russie aussi. Il ne faut pas oublier que Zelensky, c'est un russophone. Il a un gros accent quand il parle ukrainien, moins maintenant évidemment. Mais il arrive avec serviteur du peuple. En fait, c'est juste une sorte de grosse satire de la corruption qui règne en Ukraine et qui a eu un énorme succès. Donc, il était très impopulaire pour pas mal de raisons. Et puis, il ne faut pas oublier que le sentiment de sympathie vis-à-vis de la Russie, ou en tout cas vis-à-vis de l'ancienne Union soviétique, varie énormément selon la région ukrainienne. Et ça a énormément à voir avec l'histoire, qui est très compliquée. On n'aura pas le temps d'en parler dans ce programme. Et ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, l'Est, le Donbass et une partie du Sud, sont russophones, et les parties russophones ont un sentiment d'identité qui n'est pas exactement le même que l'Ouest ou que Kiev. Kiev qui est une ville hybride, où vous avez vraiment autant de gens, autant de russophones que d'ukrainophones. Historiquement, c'est moins le cas maintenant. Et à l'époque de l'Union soviétique, c'était même complètement russophone. Kiev, c'était une ville extrêmement importante. Et comme vous le savez, c'est aussi le berceau historique de ce qu'on appelle la Rouche. Et après, ce berceau s'est déplacé pour aller à Moscou. Mais ça commence véritablement avec Vladimir ou Volodymyr en ukrainien au Xe siècle dans la Russie. Et donc Zelensky passe de 30% de popularité à 80% en quelques semaines. Parce que voilà, il a compris comment parler à son peuple. Et en plus, c'est ce qu'il a fait, c'est assez incroyable. C'est une transformation physique totale. Si on voit des photos de lui avant et après, c'est plus le même homme. Même sa voix a un peu changé. Voilà. Et en gros, c'est un héros accidentel qui est un acteur, qui a du grand talent d'acteur. Encore une fois, c'est pas un acteur mineur. Il était très 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 connu dans le monde russophone et qui utilise ses talents d'acteur pour faire quelque chose qui finalement arrive très très peu dans une vie de politique ou pouvoir.
On va bientôt arriver à la fin. Je pensais au changement de pouvoir avec une colonne qui envahit une capitale. Je pensais à l'Afrique, par exemple. On peut prendre l'exemple de Kabila. Quand Kabila renverse Mobutu, c'est une colonne qui vient du Kenya. Ils avancent et ils prennent le pouvoir, effectivement, et pas qu'un peu, ils vont le garder pendant longtemps. Donc, c'est possible. Dans le roman que vous avez écrit, on voit aussi l'importance de la technologie. Il y a eu un combat technologique entre l'état actuel de la technologie russe et l'état actuel de la technologie américaine, y compris le privé, puisqu'il y a Starlink. Donc, il va y avoir le rôle de l'agente américaine qui vient en Ukraine et de représenter, en fait, ce qu'il y a de plus moderne dans, dans l'utilisation de la communication est cette maîtrise. On a un agent qui est sur place et qui maîtrise la lecture des plans, des satellites, de tout ce matériel moderne. Et c'est là que les Américains et les Ukrainiens montrent leur supériorité pour sur les Russes. C'est,
Tout à fait, tout à fait. Les Russes sont pas en retard en termes d'avancée technologique, de système de brouillage, de guerre électronique, surtout de cyberpropagande. Mais vous avez archi raison. L'opération militaire spéciale, l'invasion de l'Ukraine, c'est la première guerre numérique totale et c'est une démonstration de la supériorité américaine qui n'est pas sans rappeler son équivalent avec la guerre du Golfe de 91. Ou en fait, à la suite de la guerre du Golfe, alors ça n'avait rien à voir, hein, évidemment, mais toute la stratégie opérationnelle américaine s'est mise pour la première fois en action et toutes les armées du monde entier ont complètement changé leur mode de réflexion à cause de ça. Et ça va faire exactement pareil. Ce qui se passe sur le champ de bataille, c'est assez incroyable. Oui, en effet, mon héroïne, donc Maria Popachenko, c'est une analyste d'origine ukrainienne qui a aussi une sorte de problème d'identité puisqu'elle est devenue américaine, mais elle a immigré avec ses parents d'Ukraine quand elle était petite et elle s'est jamais complètement sentie ukrainienne ni complètement américaine. Bon, elle travaille pour la CIA. Et oui, j'essaie de montrer un petit peu comment ça marche sans entrer trop dans les détails. Ce qui se passe maintenant, et ça a une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est que vous avez une résolution satellitaire qui est complètement incroyable. Ce qui a complètement changé, pour l'art de la guerre et il y a plein d'autres implications, c'est que vous avez des satellites de surveillance qui voient à peu près tout, à tout moment. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 20 ans, les satellites avaient des grosses limites qui étaient les nuages. C'est-à-dire que dans plein de pays, à tout moment de l'année, il y a 70% à peu près du territoire qui est couvert par les nuages que vous ne voyez pas. Maintenant, avec ce qu'on appelle les radars à synthèse d'ouverture, qui ont été développés depuis quelques années, je ne vais pas rentrer dans le détail comment ça marche, mais vous avez finalement la capacité de réaliser des images tridimensionnelles, qui veut dire que vous voyez absolument tout. Et aussi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est un truc qui s'appelle, là vous parlez du privé, c'est ce qu'on appelle l'OSINT ou le renseignement d'origine source ouverte. C'est le fait qu'avec, donc ça encore c'est la révolution numérique, avec l'explosion des traces numériques un peu partout dans le monde, vous avez les moyens finalement, vous avez les analystes, les supercalculateurs et l'accès à toutes les données, de trouver des choses qui sont complètement incroyables, puisque je montre notamment que finalement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de la certitude des Américains sur l'inévitabilité de la guerre, hein, puisqu'ils en font certains à peu près à partir d'octobre 2021, elle a à voir avec toute l'analyse des mouvements de troupes et plein de vidéos qui sont postées sur des réseaux sociaux par des soldats.
Excusez-moi, mais on va se quitter. C'était formidable, j'étais très content de vous avoir à l'antenne. Et bonne fin de journée à Londres. Et là, je suis obligé de couper. Il y a Zoom qui m'envoie des messages en me disant le temps restant, tout ça. Écoutez, merci. Je mettrai tous les renseignements sur le livre, sur le lien podcast. Et à la prochaine. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà, c'était Aligre FM 93.1, La vie est un roman, avec Sébastien François de l'autre côté de la vitre. Merci Seb. Et nous passons l'antenne à Cause Commune. À la semaine prochaine pour une autre émission pop sur le rock'n'roll la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, une bonne journée. Respectez le code de la route et à bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.